Alors, on va essayer de continuer ce qu'on avait dit. On va essayer, on verra comment Hachem y veut. Mais demain, on est Yudzayin Betamouz. C'est le jour du jeûne, d'accord. C'est là où maintenant, mamash, on a commencé à la destruction du Bet Amigdash. Et j'aurais voulu qu'on essaye de voir aussi une nouvelle approche par rapport à cette destruction du Bet Amigdash. Parce que quelque part, j'ai envie de vous dire, bon, nous, on n'y était pas. Je ne sais pas combien ça nous manque, un immeuble. On a de très beaux aussi aujourd'hui. Et ça ne nous parle pas vraiment, en fait. D'accord ? Il faut être honnête. Je connais peu de personnes, même quand on se lève, pour celles qui se lèvent à Hatzot, combien on pleure sur la destruction du Bet Amigdash. Soyons honnêtes, pas trop. On pleure plus sur nos problèmes, sur nos histoires, mais voilà. Donc, ce que j'aurais voulu qu'on essaye déjà de... C'est de se dire, bon, en fait, le Bet Amigdash, c'est... Chacun, il a son Bet Amigdash dans son cœur. On a toutes notre Bet Amigdash. Et peut-être, Bémet, on doit essayer de pleurer, mamash, de commencer à dire, Ribono Shel Olam, en réalité, mon cœur, il a perdu la sensibilité. Mon cœur, il est... Il ne comprend même plus en réalité sur quoi on doit pleurer, sur quoi on doit rire. On est très perturbé, Bémet. On vit dans un monde qui est très, très... qui nous trompe comme ça. Et on peut dire aussi que, en réalité, ces trois semaines qu'on va passer maintenant, juste pour vous rappeler, on n'a pas le droit d'écouter de la musique pendant les trois semaines, sauf du a cappella. Et chacun, il doit essayer de dire, tu sais quoi, j'ai envie d'essayer de me souvenir qu'on avait un Bet Amigdash, on avait un endroit où Bémet, on avait un contact avec Hachem. Si chacun de nous, on peut essayer pendant ces trois semaines d'éclairer nos amis. Ça veut dire quoi, d'éclairer nos amis? Ça veut dire de parler avec les gens autour de nous, d'accord? À quel point c'est important d'essayer de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On voit que le virus y reprend. Pas de panique, parce que tout est dans les mains d'Hachem et tout est voulu par Hachem. Mais Bémet, peut-être qu'on peut se dire, c'est marrant que juste maintenant, la veille de Yudzayin Betamouz, encore on nous dit, allez, il y a des endroits où on ferme et tout. Peut-être que Bémet, on s'est un petit peu trop détendu et on s'est lâché un petit peu parce que pendant ces périodes, on était toutes en train de vouloir faire tchouva et on se renforce, on prend des mitzvot. Et on sait que l'arrivée de l'été, en général, c'est très difficile, d'accord? Parce que l'été, c'est le soleil, c'est la plage, c'est le truc, donc on s'oublie un petit peu. Et on veut paraître un peu light, on veut paraître un petit peu comme ça. Donc peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, il veut juste nous lancer un message. En cette veille de Yudzayin Betamouz, il veut juste nous dire, mes enfants, mes amis, vous savez quoi? J'en peux plus d'être en galoute de vous. J'en peux plus de l'exil dans lequel vous me laissez. J'en peux plus de me sentir seule. J'en peux plus de me sentir délaissée. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. J'essaye de vous faire passer des messages. Alors, des fois, vous attrapez. Des fois, vous attrapez pas. Mais Bémet, que le message aujourd'hui, c'est que Akadosh Baruch Hu, eh ben, il n'en peut plus d'être en exil. Pashut, il n'en peut plus. Il a envie qu'on le sorte de son exil, Akadosh Baruch Hu. Et Rabbeinu, il a dit... La seule façon de sortir Akadosh Baruch Hu de son exil, c'est d'aller le voir, c'est de parler avec lui, c'est de lui raconter nos vies, nos histoires, nos machins. C'est pas pour rien que Rabbeinu, il a tellement, tellement insisté sur la Hitbo des doutes, parce que, en réalité, quand je vais parler avec Akadosh Baruch Hu, ben, ça racole, qu'est-ce que je fais? Je crée une interaction comme ça, et automatiquement, je sors Akadosh Baruch Hu de son propre exil, et je fais en sorte qu'Hachem, il se réunisse avec son peuple juif, d'accord? Donc peut-être qu'il faudrait commencer un petit peu à se renforcer dans ce nocé, se dire, bah, tu sais quoi, je vais prendre Yudzayin Betamouz comme point de départ où je vais essayer de me renforcer. Je vais essayer aussi de parler avec mon prochain et de dire, essaye de faire quelque chose, essaye de te rapprocher d'Hachem parce que c'est sûr que nos Neshamot, elles en ont marre de la galoute, ça c'est sûr et certain. Aussi un point que je voulais vous dire, et c'est pour ça qu'on a amené les livres Shema Israël, c'est la vie de Rabbi Israël, c'est que demain c'est aussi un très grand jour, parce que malgré, et c'est ça qui est magnifique chez le peuple juif, c'est tout ce paradoxe, c'est la destruction du Beth Amikdash, mais c'est aussi le jour où Saba, Rabbi Israël, vers au dessert, il a reçu le Pétek. Ce fameux Pétek, d'accord, où Rabbi Nachman, il lui a envoyé une lettre du ciel en lui disant comme quoi son feu, ça veut dire il lui donne un peu le flambeau et lui dit c'est sur toi que j'ai dit que mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Donc c'était un jour qui... c'est le jour où Bémet Rabbi Israël il a reçu ce Pétek qui est aussi quelque part un message d'espoir. D'accord ? Parce que le Pétek, en réalité, c'est le déclenchement de la Géoula. Donc c'est aussi un message d'espoir et c'est un jour où on se doit dire, tu sais quoi ? Allez, même si des fois j'en peux plus, c'est difficile. C'est quoi l'exil ? L'exil, c'est sûr qu'on veut le Beth Amikdash, mais c'est aussi notre propre exil à nous. D'accord ? Ça veut dire chacun avec sa galoute, chacun avec sa souffrance, chacun avec son éloignement, chacun comment il ressent les choses. Et ben, se dire, tu sais quoi ? L'amrot à col, c'est vrai que c'est difficile, on est en galoute et tout, mais quand même, Hachem, il a eu pitié de nous. À travers Rabbi Nachman, il nous a envoyé un pétek, d'accord ? Où il nous a donné, il a commencé déjà à nous dévoiler la Géoula. Et demain, Bémet, que c'est important, chacun de répéter encore et encore, Nanach, Nachman, Nachman, Meuman, parce que, comme il y a marqué dans le pétek, c'est le chant de la Géoula en réalité. Donc plus je le dis, tous les jours même vous pouvez le dire, à chaque instant, quand il y a des moments difficiles, on répète, nanar, nahman, nahman, mouman, bémet, que ça donne des forces. Et vous allez voir, c'est comme si que on ouvrait comme ça des choses qui sont bloquées. Donc demain, c'est aussi bémet un jour spécial où Baruch HaShem, on a, malgré la destruction du Beth Amikdash, et ben c'est aussi un début de reconstruction Bezrat HaShem.
Et excuse-moi, il lui a envoyé
une lettre.
Arabie Israël, Ber Odesser, oui.
Et pourquoi il lui a envoyé
C'est obligé que Michel pose la question, c'est obligé.
Il était où?
Alors, elle a pris ce livre, Michel,
oui,
ou elle n'a
oui,
pas pris
ouais, Michel,
donc tu vas le lire. Ah, okay. En fait, Rabbi Nachman, il était déjà parti de ce monde. D'accord ? Mais il était parti, et c'est pour ça que je te dis, Rabbi Nachman, il a envoyé une lettre du ciel qui est arrivée chez Rabbi Israël. Ah, tu vas adorer le livre, je te dis d'avance.
Comment il
lui a envoyé ? Alors, en très rapide, mais bon. En express. Non, en réalité. Donc, Rabbi Israël n'était pas du tout Breslev, il vient de la chassidoute Karline. La chassidoute Karline, c'était carrément une chassidoute qui s'opposait, d'accord, à la chassidoute Breslev. Et de toutes les façons, à l'époque, toutes les chassidoutes étaient... Enfin, Breslev, de toutes les façons, était complètement proscrit, etc., etc. Et donc, quand Rabbi Israël, il a... C'était Yudzayin Betamuz. Et Rabbi Israël, il a... pas jeûné, d'accord, il s'est senti fatigué. Tu sais, des fois, quand t'es fatigué ou que t'es pas bien, il te dit, pas la peine, bois un peu, mange un peu et tout. C'est exactement ce qui s'est passé. Et Rabbi Israël, il a... Tu peux me sortir le pétec de la traduction, comme ça je le lirai. Et Rabbi Israël, donc, il a mangé. Quand il a mangé, ce jour-là, d'accord, nous, on va dire, bon, c'est pas grave. Lui, il est devenu malade. Il a dit, mais comment j'ai pu me faire avoir ? Comment j'ai pu manger Yudzayin Betamuz ? Alors, Rabbi Israël, qui était, d'accord, Breslev, et que tout le monde se moquait de lui, tout le monde lui jetait des pierres, tout le monde le laissait, d'accord, vraiment crever, mamage, parce que c'était un Breslev et que tout le monde était contre Breslev. Mais Rabbi Israël, il avait une chose, c'est qu'il chantait, il dansait tout le temps. Ça veut dire, on lui jetait des pierres, on lui faisait des tsarotes et des problèmes. Et tout le temps, merci. Et tout le temps, d'accord, les gens, Rabbi Israël, il chantait tout ça. Et quand Rabbi Israël, il s'est aperçu qu'il a mangé, alors là, il est rentré dans une tristesse profonde. Et alors là, je te dis pas, tous les gens, ils ont dit, mais il est complètement dingue, celui-là. Il rigole. Maintenant, il est triste. Le pauvre Rabbi Israël, il est devenu fou. Bon. Mais lui, il n'avait pas dit à personne qu'il n'avait pas mangé. Tu comprends qu'il avait mangé. Il a dit à personne, personne, personne ne comprenait pourquoi il était dans cet état. Mais il pleurait, il n'était pas bien, il était très mal. Il est parti dans les montagnes, il habitait à Tibériade. Il est parti comme ça dans les hauteurs de Tibériade. Il a fait des doutes, il a pleuré, tout ça. Jusqu'à, pendant une semaine, à peine il mangeait, il buvait comme ça. Et au bout d'un moment, il y a une voix comme qu'on connaît quand on fait des doutes. Des fois, on entend comme ça une petite voix qui lui dit, bon, va dans ta chambre, dans ton armoire, ouvre un livre et là-bas, tu auras ta Yeshua. Bon, Rabbi Israël, il y va, il ouvre un livre et puis, je crois que c'était le Likutei Halachot, mais prenez pas au mot.
Non, il a ouvert le Or HaChaim.
Ah, c'était le Or HaChaim ?
Il y a que c'était ça, il y a.
D'accord, ok. Alors, c'est Vashu Meyuchad. Donc, il ouvre un livre et en ouvrant, bon, il lit, d'accord, et il y a un papier qui sort, mais il n'a pas fait attention, Rabbi Israël. Il lit, tu sais, des fois, quand tu vas chercher une réponse, tu cherches, tu n'as pas bien, tu dis, attends, j'ouvre un livre, tu lis. Bon, d'accord, mais ça ne m'a pas fait. Puis, d'un coup, il voit qu'il y a un papier comme ça, d'accord, qui est tombé. Il se dit, qu'est-ce que c'est ce papier? Il vient pour le remettre, et puis, pitom, il le ressort. Et là, la folie, il voit donc un papier, d'accord, où c'est écrit en, on va dire, des lettres un peu comme ça, bizarre. Et il lit. Et qu'est-ce qui a marqué sur ce livre? Donc, c'est texto ce qui a marqué, ok? Il m'a été très difficile de descendre vers toi, mon cher élève, pour te dire que j'ai beaucoup apprécié ton service divin. Alors, 2 minutes. Il m'a été très difficile de descendre vers toi, c'est-à-dire, imagine-toi, Rabbeinu, tout ce qu'il a dû faire pour, d'accord, arriver vers nous, parce que Rabbeinu, c'est une lumière qu'on peut même pas s'imaginer. C'est-à-dire, même si tu vas étudier, tu vas faire tout ce que tu veux, tu pourras jamais comprendre qui c'est Rabbeinu, tellement c'est grand. Donc Rabbeinu, il est descendu, d'accord, il a été très difficile pour lui, mais il est descendu vers nous, et il a dit, mon cher élève, d'accord. Donc déjà, tu sais, se faire appeler un élève du tzaddik, c'est pas rien. C'est-à-dire, nous, on dit, on est Breslev, on est... on n'est rien du tout, on est de la rigolade, nous, tu comprends? Mais Rabbeinu, lui-même, qui vient, qui dit, toi, tu es mon cher élève, ça te renforce. J'ai beaucoup apprécié ton service divin. Mon service divin? Mais attends, j'ai pas jeûné Yudzaïn Betamou, ça veut dire... de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Attends! Donc, il lui dit comme ça. Et c'est sur toi que j'ai dit, d'accord, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Sois fort et courageux dans ton service. Nanar, Nachman, Nachman, Meuman. Et par cela, je te dévoile un secret et le voici. Dans ces débordants, d'une extrémité à l'autre. Petzadik, Petzadik, Yudhe. En te renforçant, c'est le nom de l'ange préposé à la fête de Rosh Hashanah. En te renforçant dans ton service, tu le comprendras. Et le signe, et c'est là où c'est le truc dingue, le 17 Tammuz, ils diront que tu ne jeûnes pas. C'est-à-dire, il n'y avait personne. Personne ne savait que Rabbi Israël, il n'avait pas jeûné. Personne n'était au courant. Tu comprends? Donc, le signe, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, Bémet s'est dévoilé dans le monde entier que Rabbi Israël, il n'a pas jeûné. C'est le signe. Parce que quand tu fais une avéra très grave, d'accord? Parce que tu vas aller t'enorgueillir, tu vas aller raconter que tu te la fermes et tu dis, passons. On va essayer de passer comme si que, tu vois? Et bien là, carrément, et le signe, ça veut dire, Rabbeinu, il vient, il lui dit, le signe, c'est quoi? Que tout ce que je suis en train de te dire, c'est pas ça, parce que tu pourrais dire, non, mais c'est n'importe quoi, c'est machin. Le signe, c'est qu'on va dire que t'as pas jeûné, le Yudzaïn Betamouz. Et là, Rabbi Israël, quand il a lu ça, il a pris ce papier, il a commencé à danser. Et là, pour le coup, tu vois, quand les gens, d'accord, autour donc de Tibériade, c'était un petit village, c'était un petit truc, quand ils l'ont vu revenir danser, ils ont dit, ça y est, Rabbi Israël Bémet, bon pour l'hôpital psychiatrique. C'est foutu pour lui, il est complètement dingue. Mais personne ne savait pourquoi, lui, il était en train de danser. Personne n'était au courant. Tu te rends compte, le message, voilà, le pétec, voilà comment il avait l'air, et ça, c'est Rabbi Israël, d'accord? Voilà, ça c'est de Pétek. Ok, alors.
Ah, c'est lui, Rabbi Israël.
C'est lui, Rabbi Israël.
Et l'époque,
c'est l'époque, c'est en 1900. Attends, je vais te dire. C'est début du siècle parce que il est mort il y a à peu près. Rabbi Israël, il est mort il y a à peu près 25 ans. D'accord. Donc, et il a vécu jusqu'à 104 ans. Donc, Rabbi Israël, ouais, comme ça. Donc, Rabbi Israël Bémet, que il faut que vous sachiez que le pétek, d'accord, c'est, on croit que c'est rien. Le pétek, c'est le début de la Géoula. C'est un message que Rabbeinu nous envoyait. C'est ça qui nous permet encore de tenir. Et sans rentrer trop, mais je peux vous dire que si aujourd'hui, d'accord, de la même manière que Rabbi Nathan, l'élève de Rabbeinu, d'accord, c'est grâce à Rabbi Nathan qu'on a Rabbeinu, c'est grâce à lui. Parce que c'est Rabbi Nathan qui a écrit, c'est Rabbi Nathan qui a tout retranscrit, Rabbi Nathan qui s'est complètement annulé devant Rabbi Nachman, c'est lui qui a tout fait, d'accord. Si aujourd'hui, on connaît la chassidoute Breslev et que c'est devenu tellement mazé commun, tout le monde connaît Rabbi Nachman, tout le monde connaît. Si aujourd'hui on connaît tout ça, c'est grâce à Rabbi Israël. Parce que tout le but et tout le travail de Rabbi Israël, c'était quoi? La diffusion des livres. C'est lui qui a créé le Keren. Et Rabbi Israël, juste pour l'anecdote, sachez que il recevait une petite pension du Bitoir Léoumi qu'il n'a jamais touché. L'argent, il n'y touchait pas. Et vraiment, je peux vous le dire parce que moi, je l'ai vu. On a eu la chance, nous, de connaître Rabbi Israël. On a eu la chance de le recevoir à la maison. Donc, on a Bémet, on a vu ce que c'est qu'un chassid Breslev Amiti. On a vu qu'est-ce que c'est Bémet, un homme de Dieu. Et tout l'argent, alors il n'y avait pas d'argent chez lui, il n'y avait pas tous ces trucs, tu sais, comme fois tu devrais avoir un rave, les brachot, il n'y avait pas tout ça, ça n'existait pas. Rabbi Israël, si tu venais, tu pouvais même ressortir, j'ai envie de te dire, déçu, parce que ce n'était pas un baba. Et il n'était pas du tout le style à te donner des brachot. Et encore moins, si tu venais avec tes gros sabots et ton porte-monnaie, il te dégageait direct. Une fois, je me souviens.
Dans le livre Par le feu et par l'eau,
tout est marqué. Tout. Ça. Celles qui veulent vraiment le livre Par le feu et par l'eau, c'est un livre extraordinaire parce qu'il vous explique tout. Je me souviens une fois, il y a une personne qui était venue chez nous à la maison et j'habitais avant dans un quartier ultra orthodoxe et c'était des familles très. C'était des familles très illustres comme ça. Et il y a quelqu'un qui est venu chez Rabbi Israël, chez nous à la maison, et elle s'est présentée en lui disant « Je suis Madame Intel, fille de Intel et fille de machin. » Et là, Rabbi Israël, il a commencé à faire « Mais je ne sais rien du tout, qu'est-ce que vous voulez chez moi ? Je suis un vieux. » Il s'enfonçait dans sa couverture « Anisaken, je suis vieux. » Bon, bref, ça veut dire la déception totale. L'autre, elle a dit « Mais c'est quoi ce vieux sénile, ce dingue, ce truc, là, etc. » Bon, c'était ça, Rabbi Israël. Et si tu venais avec un peu d'humilité et que tu venais pour Bémet chercher la vérité et que tu venais Bémet avec ton cœur pur et tout ça, alors Rabbi Israël, il pouvait te dévoiler des très grandes choses. Et je me souviens que vraiment, il n'y avait pas d'argent et l'argent que l'on pouvait lui donner, tout de suite, il disait ça, c'est pour les livres, ça, c'est pour les livres. D'ailleurs, quand il est parti de ce monde, il a laissé Baruch HaShem une grande somme d'argent. Qui étaient justement toutes ces petites pièces qui récupéraient tout ce bitoir Léomi. Et avec ça, on a pu créer, mettre le Keren, le fonds, d'accord, du Keren, qui a permis d'imprimer, de diffuser des livres. Il y a eu plus de 20, il y a beaucoup plus qu'à l'époque, déjà il y a quelques années, on disait qu'il y avait 20 millions de livres qui avaient été distribués dans le monde, mais tout a été traduit. Ça n'existait pas, hein. Sachez que tout ce que vous avez dans les mains, tout ce qu'on vous offre aujourd'hui, ça n'existait pas en français.
Il a une descendance.
Il a une descendance, bien sûr. Une de ses descendantes qu'on a bien connue, c'était Tzipora, Zichrona Livracha, qui était très proche de son père et qui souvent, quand Rabbi Israël n'avait pas de maison, et c'était quelque chose d'exceptionnel parce qu'il n'avait pas de maison. Ouais. Et la voiture qu'il avait, elle avait été, c'était une Subaru, tu vois, donc c'est vrai que ça ne fait pas très stylé, mais c'était une Subaru toute pourrie qu'un Talmid lui avait dû lui donner. Et je me souviens que Rabbi Israël, même pour mettre l'essence, tu vois, il ne te mettait pas de l'argent. Ça veut dire, il n'y avait pas... L'argent de Rabbi Israël, c'était qu'on pouvait lui donner, c'était Kodesh Kodashim. C'était pour les livres. Tu comprends ? Comment il faisait pour... Alors justement, Rabbi Israël, il allait chez ses élèves. Voilà. Il était chez nous, il tournait de droite et gauche. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Un homme de 100 ans, d'accord ? Je ne sais pas... 100 ans déjà, ok, 100 ans qui pouvait bouger, ça veut dire Rester chez toi.
Il n'y avait pas d'appartement.
Rien.
Oui, dormir.
Rien. Ben, chez nous. Elle est morte. Elle est morte.
Mais il n'a plus de maison depuis le décès de sa femme.
Non, après, il est parti en maison de retraite. Et puis, à un moment donné, il a. Parce que le PETEC n'a pas été dévoilé tout de suite. Il a gardé le PETEC pendant 60 ans. Un peu avant, je crois. Et donc, c'est tout nouveau. C'est-à-dire, le PETEC est très ancien, mais en réalité, le fait que ça a été dévoilé, c'est très, très neuf, en réalité. Tu comprends ? Et donc, Rabbi Israël, il a voyagé de par le monde, bien sûr, pour dévoiler le PETEC. Mais quand il était ici en Israël, il tournait. Alors, je me souviens, une fois, mon mari, il est venu le voir. Il lui a dit, Rabbi Israël... on voudrait t'inviter, mais bon, sûrement que mon mari, il est venu avec ses gros sabots et il a dégagé, même pas en rêve, je viens chez toi. Donc, mon mari, il est revenu, il m'a dit non et tout ça, parce que mon mari croyait, tu vois, on a une belle maison, viens chez nous, tu auras la place. Rabbi Israël s'en fout de toutes ces choses-là. Alors, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, ben, Canérec, il faut que tu fasses un peu de tchouva, que tu viennes avec plus d'humilité et tout ça. Bon, quelques temps après, Rabbi Israël, mon mari, il est venu, il a dit, Rabbi Israël, vraiment, vraiment, je voudrais que tu viennes chez nous. Alors, il a dit, bon, je vais venir pour quelques heures chez toi. Alors, il est venu et on l'a installé comme ça, je me souviens, dans la balancelle, dans le jardin. J'habitais donc à Telston à l'époque, qui était une ville anti-racide. Et c'est incroyable, anti-racide. Anti-racide.
Quel qu'il soit.
Quel qu'il soit.
Alors, vous n'étiez pas religieux.
Ah si, on était très religieux. Et on était Breslev. Comment ça se fait que j'ai atterri là-bas ? Bon, ça va être le cours d'aujourd'hui, d'accord, j'ai compris. Mais on apprend comment ça se fait qu'on a... Alors, quand on a fait l'Alia, mon mari et moi, on était très idéalistes. On a fait l'Alia, on a tout quitté. Tout était pour Eretz Israël et vraiment tout ce que tu veux. Et quand c'était venu le moment de trouver une maison, donc on a été chez Rabbi Israël. À l'époque, il était à Tzfat, d'accord, dans la soukha d'un ami. Et mon mari, il est rentré, il lui a parlé et tout ça. Alors, il lui a dit, Rabbi Israël voudrait habiter Jérusalem, tout, tout, tout. Et il lui a dit, si Dieu veut, tu vas trouver ton endroit... belle maison et tout ce que tu veux. Bon, et donc on a été sur Jérusalem avec mon mari et on a tourné et tous les quartiers où on nous envoyait, mon mari ne supportait pas parce que c'était en général les quartiers orthodoxes sont un peu pas très beaux et mon mari il a besoin d'esthétique comme ça Hachem il a fait et donc tout ce qu'on lui proposait c'était très difficile pour lui, d'accord. Ne rigole pas Audrey. Audrey elle connaît bien mon mari. Et donc c'était très difficile parce que chaque endroit c'était une idée. Ah non, je peux pas. Bon, et puis à un moment donné, je sais pas, il y a un ami Weissandler qui est un chassid de Breslev qui a dit à mon mari, viens, je vais t'emmener dans un endroit, je sais où tu vas aller, c'est ce qui va te plaire. Et c'est vrai que dès qu'on est rentré, ça nous a souri, c'est très beau, très classe. On appelle ça le Savion des Haridim. Mmh. Donc c'est vrai que c'était très très beau et on a commencé à monter comme ça, t'as une petite montée et tu voyais des maisons. Alors c'est Hollywood par contre. C'est que des Américains pratiquement. Et ma mâche, comme ça, on s'est promené et on a arrêté. Je me souviens, un petit jeune, on a dit, tu connais pas une maison à vendre, tout. Le petit gosse qui dit, ah oui, telle famille, elle veut vendre, machin. Et on s'est retrouvés comme ça et on a... ça veut dire vraiment, tu vois, c'était comme ça, ça s'est fait très vite. Donc, on a atterri là-bas. Tu sais, les Français, on est très tamim, on est très naïfs. Nous, on cherche pas maintenant, on veut ça. Nous, c'est Eretz Israël, c'est tout. On est content d'habiter ici, ça mérite. Donc, on s'est retrouvés là-bas. Donc, au bout d'un moment, on a compris que ce n'était pas du tout chassid. Le seul chassid qu'il y avait, c'était un chabad et il a déménagé. Donc, voilà. Mais nous, on était là-bas et on a diffusé les livres. Et Rabbi Israël, c'est sûr que quand il est venu, c'était quelque chose de grand. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'était que je me souviens que Rabbi Israël, quand il voulait mettre de l'essence ou quoi... Non, c'était... Il n'y avait pas. C'est toi qui devais mettre de l'essence si tu voulais aller quelque part. Je reviens quand il était chez nous. Donc, quand il était sur la balançoire, et là, il commence à trouver comme ça dans le jardin. Et puis, c'était pour quelques heures. Donc, moi, il me dit, il y aurait du coca. Oh, il n'y avait pas de coca, la macolotte fermée. J'ai dit non, je vais mourir, c'est pas possible. Rabbi Israël, il est chez moi, j'ai même pas pour lui servir un coca. J'appelle le type de la macolette, je t'en supplie, tu ouvres la macolette tout de suite. Il y a Rabbi Israël chez moi, il veut du coca, il faut que je donne du coca. Bon, ok. Il habite pas loin, donc il nous a ouvert la macolette, on a pris du coca et tout ça, on a servi. Et puis, c'était comme ça, très tranquille. Et puis, à un moment, Rabbi Israël a dit, je vais rester un petit peu. Et donc, il est resté à la maison pendant 10 jours. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'était, mais tous les jours, c'était un cadeau, ça veut dire. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que pendant 10 jours, je pense que j'ai vécu 10 jours dans le Gan Eden, vraiment. C'était pas de ce monde, pas que Rabbi Israël, il faisait des choses exceptionnelles. Pas du tout même. Il était dans sa chambre. C'était vraiment, il n'y avait rien d'exceptionnel. Mais 10 jours de bonheur où on sent vraiment, comme tu dis, une doucha, quelque chose de spécial. 10 jours où ma maison n'était plus ma maison, bien évidemment. Parce que comme nous, d'accord, on suivait, en fait, on vivait au rythme de Rabbi Israël. C'est-à-dire, là où il allait, Rabbi Israël, on allait le voir. C'était normal qu'on se déplaçait pour aller voir Rabbi Israël. Donc, quand il était à Jérusalem, eh ben, tous les gens du Nord, ils descendaient, ils venaient à Yerushalayim et ils allaient le voir. Et donc, ils s'asseyaient et il n'y avait plus d'heure. Ça veut dire tu vivais vraiment hors temps. Hors temps, tu vivais hors temps.
Tout le temps.
Il y avait du monde. Je me souviens une fois, il était peut-être 1h du matin. Je venais de finir la cuisine, tout débarrassé, tout machin, parce que tout le monde qui vient, bon, c'est sûr, tout le monde, c'est normal. Et je finis, et là, j'entends une Jeep arriver. Je regarde comme ça un peu, tu vois, et je dis, ah, ça, c'est les gens de Tzfat qui arrivent. Alors, ils sont arrivés, et ils viennent avec la guitare, et il y a une simcha comme ça. Et, ah, c'était quelque chose... Non, je vous dis, c'était pas de ce monde, hein. Vous pouvez pas... Ça veut dire, tous les rabbins que vous pouvez aller voir aujourd'hui, d'accord, ça n'a rien à voir, parce que Rabbi Israël, c'était pas ça. C'était comme si tu viens voir ton meilleur ami, en fait, et tu t'installes, et tu t'assois à côté de lui, et tu joues de la guitare, et tu peux parler, tu peux rigoler, Puis tu peux être... Enfin, c'était pas de ce monde, quoi. C'était pas comme on a l'habitude aujourd'hui. Et donc, ils sont venus, et là, rebelote, sert-leur à manger, fait le machin. Il n'y avait pas d'heure. C'était pas... Mais, 10 jours où je n'ai pas été fatiguée. À aucun moment, j'ai dit, j'en peux plus, je suis crevée. Le Shabbat du Bénis, c'était blindé à la maison. On en a mis partout, d'accord. Et je me souviens, Rabbi Israël, il a dit, tu donnes d'abord à manger à tes enfants. Ça, Rabbi Israël, il était très sensible à ça, parce que, bien évidemment, il avait ce truc de... Est-ce que c'est parce que ses enfants sont morts de faim, peut-être ? Lisez le livre. Je ne vais pas tout vous raconter, je vous laisse comme ça, mais Rabbi Israël, vraiment, ses enfants sont morts de faim. Il a un enfant avec Mamash, et parce qu'on ne lui donnait pas d'argent, parce qu'il était chassid Breslev. C'est ça que tu dois comprendre. Alors, Rabbi Israël, il était très sensible au fait qu'on donne à manger aux enfants. Et bien évidemment, c'est vrai que moi, je recevais tout ce monde. C'est vrai que j'aurais peut-être pu un peu faire passer les enfants après. Et Saba, il a dit, tu donnes d'abord à manger à tes enfants. D'abord, avant tout, tes enfants. Donc, voilà, c'était quelque chose de... C'est vraiment, vraiment... Je pense vraiment qu'on a eu un grand mérite. Et je me souviens, regardez la finesse de Rabbi Israël, pour finir. Il y a un jour, mon mari, il est venu, il m'a dit... Comment on va faire ? Aujourd'hui, on a rendez-vous à Tel Aviv chez quelqu'un. On devait aller voir absolument quelqu'un. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait avec Rabbi Israël ? Comment on va faire ? Maintenant, Bémet, c'était n'importe quoi. Parce que Rabbi Israël, il avait tout le temps du monde qui était là. Il y avait des gens qui... C'était n'importe quoi, en réalité. Mais bon, comme ça, c'était... Alors moi, j'ai dit à mon mari, ah bon ? Et je sais pas, mais moi, dans ma tête, j'ai dit, mais je m'en fous du rendez-vous. Ça veut dire, qu'est-ce que je m'en fous? Maintenant, la vie n'existe plus, le monde n'existe plus, je suis dans le Olam Abba, je suis complètement dans un autre monde, tu vois. Et là, quelques instants après, Rabbi Israël, il a dit à son chamash, comme ça, à ceux qui s'occupaient, il lui a dit, prépare les affaires, il faut qu'on parte.
Il a senti.
Et Bémet, que j'ai pleuré beaucoup, j'ai dit, oh là là, là là, j'ai prié, j'ai dit, Rabbi, nous, Hachem, je t'en prie, parce qu'ils ne partent pas, ils ne partent pas. Et bon, et ben, c'était tout, et tout, c'est tout. Mais on a eu, grâce à Dieu, 10 jours. Et...
D'ailleurs, elle a le matelas, où il a dormi.
Oui, c'est vrai que j'ai... C'est vrai que celui qui veut... tes enfants, ils ont dormi dessus, Audrey, ton fils.
Tu me l'as dit, ouais.
C'est vrai, c'est ouais. vrai. Et tous ceux qui viennent à la maison et qui dorment dans ce lit, tous me disent la même chose. On sent quelque chose de spécial.
Et
viens quand tu veux.
Je dis rien du tout.
Et tout le monde est invité. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, le matelas, la vérité, commence un peu à dépérir. Et à chaque fois, j'ai dit, je vais changer le lit. Et à chaque fois, on me dit, mais comment tu vas changer le lit, c'est Rabbi Israël. Alors, je dis, bon, écoute, El Malassot, c'est tout. C'est vrai que El Malassot, ce lit doit rester là. Et chaque fois, je me dis, où c'est que je peux le mettre? Peut-être en haut, peut-être en bas, peut-être machin, tata. Non, le lit, il est là-bas. C'est un lit pour la chambre d'invité. Et c'est comme ça, et c'est tout. Et c'est vrai que même moi, des fois, je vais m'allonger là-bas, même qu'il est... D'accord ? Mais c'est vrai que c'est un plaisir d'être là-bas. Tu sens...
Si les femmes pouvaient se mettre...
Tout le monde. C'est une sérénité incroyable. Donc voilà. Et une autre chose que je voudrais vous raconter, si déjà on est dans Rabbi Israël, j'ai eu le mérite aussi, c'était quelque chose d'exceptionnel. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment ça s'est passé, cette histoire. Le soir où Rabbi Israël il est parti de ce monde... Avec mon mari, au début, on avait dit, on ne savait pas, on a dit, on va aller manger une pizza, Motsei Shabbat, et on reçoit le téléphone, Rabbi Israël, il est mal, donc on a dit, bon, alors, on change de direction, on va à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, le monde, le machin, la folie, bon, vous pouvez imaginer, on était tous là. Et je ne sais pas comment, j'étais avec mon amie, je me souviens, une amie à moi, et qui était aussi qui est très proche de Rabbi Israël. Et je ne sais pas comment, on s'est retrouvés comme si, tu sais, on te prend, on te dirige comme ça. On est rentré, on s'est retrouvé en fait dans la chambre de Rabbi Israël. Et j'ai vu Rabbi Israël allongé sur son lit, comme ça. Et ne me demandez pas ce qu'il a dit ou pas dit, parce qu'il était complètement, il partait comme ça. C'était vraiment. En tout cas, on a vu Rabbi Israël vivant. Et je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. C'était comme un manège, en fait. Je me suis retrouvée à l'extérieur de la chambre. On s'est retrouvées toutes les deux à l'extérieur de la chambre. Et comment le manège s'est remis en place, on s'est retrouvées encore une fois. Et là, on a vu Rabbi Israël. Il était mort, il était par terre, recouvert d'un drap blanc. Et ça, c'est... et ça, je dis, ben, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que voir le tzaddik avant et juste après, c'est un très, très grand cadeau. Et le plus grand cadeau, c'est que quelque part, j'ai vu Rabbi Israël. Je ne sais pas si j'aurais pu me dire il est parti de ce monde si je ne l'avais pas vu. Tellement pour nous, c'était impossible. Donc, ça a été très, très spécial. Je me souviens aussi que... Alors, je n'ai pas bien les dates, mais il pleuvait. Je crois que c'était le jour de son enterrement. Je crois... Ou alors, les shloshim, il pleuvait. Si tu te rappelles, Myriam, de quelque chose, si tu as lu ou pas... Mais je ne sais pas si c'est écrit. Il pleuvait et il y avait comme un buisson comme ça un buisson qui avait pris un peu feu et en fait il s'éteignait pas malgré qu'il pleuvait. Il s'est passé quelque chose de vraiment incroyable. C'est mon mari qui m'avait raconté parce que nous on n'allait pas. Et voilà. Donc ça c'était quelque chose de très spécial. On a eu le mérite de connaître vraiment ce que c'est qu'un chassid Breslev. On a eu le mérite de voir ce que c'est que la simplicité, de voir qu'est-ce que c'est que Bémet, quelqu'un qui vit avec rien, quelqu'un qui fuit les honneurs, qui fuit l'argent, qui fuit la richesse, tout, ça veut dire vraiment, c'était hors temps, c'est comme si que tu dis, on nous avait pris, à l'époque où il y avait Saba, on l'appelle Saba, grand-père, à l'époque où il y avait Saba, c'est comme si que on nous avait pris, on nous avait déplacé hors du temps, et on nous avait mis à l'époque de Rabbi Nachman. On vivait une autre époque, complètement. Et voilà. Et donc, demain, c'est le jour, comme je vous ai dit, donc Yudzayin Bet Tammuz, où il a reçu le Pétek. Donc, celles qui sont à la maison, ou celles qui ont la possibilité, vraiment, lisez ce livre. Si vous ne l'avez pas, essayez de vous le procurer, parce que c'est exceptionnel de lire la vie de Rabbi Israël. Et je peux vous dire aussi, comme dans le Likutei Tfilot, comme dans Alim les Troufas, le livre Les mots qui guérissent, des fois stable comme ça, j'ouvre le livre, je me dis, tu sais quoi, je vais lire un peu du Rabbi Israël. Et je, tu vois, Le monde n'est pas laissé à l'abandon. J'ai pu voir combien l'Éternel veille au Dieu très grand. Je vois comment il supporte et comment il paye exactement. Il paye bien d'un bon prix. Bon, bref, chaque fois que je lis, d'accord, c'est comme si qu'il y a une lettre comme ça, une parole qui va un petit peu me... Vraiment un message comme ça qui va nous renforcer. Et tu vois, la première chose, le monde n'est pas laissé à l'abandon. Ça veut dire, Bémet, que malgré aujourd'hui tout ce qu'on peut vivre avec ce virus et que les... On nous met encore une fois, on nous renferme. Loli Dog, Bémet, le monde, il n'est pas efker, Akadosh Baruch Hu. Il est là et il sait ce qu'il fait. Je pense que Hachem, il veut juste une chose, c'est que chacun de nous, on essaye de se dire, écoute, c'est quoi, si on n'a pas de la peine pour notre âme, ce qui est très possible puisqu'on la ressent à peine, mais viens, on a un peu de peine pour Hachem, viens, on va faire un effort pour lui, viens, on va lui parler un petit peu, comme ça, on le sort un petit peu de son exil et si on peut dire ça, si on peut dire qu'on peut stimuler Hachem, si tu as envie, mais vraiment avoir pitié comme ça de cet exil qu'Akadosh Baruch Hu il a et qu'il a envie, vraiment, il a envie de retrouver sa shrina, il a envie que l'union, elle se fait, et nous, on représente, ça veut dire... La shrina, elle repose sur le Ham Israël, et on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a qu'une seule envie. C'est vraiment que l'union, elle se remette en place. C'est-à-dire, Hachem, il veut vraiment que tout soit remis en place, que le monde revienne, ça veut dire, à l'état où, ça y est, maintenant, le Mashiach, il peut être dévoilé. Et la seule chose qui va faire que le monde, il va être dévoilé, c'est qu'on prenne la etza de Rabbi Nachman, ça veut dire le conseil que Rabbi Nachman nous a donné de Itbodedut. Parce que quand tu parles avec Akadosh Baruch Hu, même si tu es très loin, même si tu te trompes, même si tout ce que tu veux, à partir du moment où tu parles avec Boré Olam, Akadosh Baruch Hu, il va te sortir comme ça de ton enfer, il va te sortir lui-même de ton exil et il va commencer à te placer, d'accord, sur la voie de la tshuva. Dès que tu parles avec Hachem, c'est comme si qu'en réalité, tu as pris une prise en charge. Tu es pris en charge à 100%. C'est sûr que tu vas revenir vers Akadosh Baruch Hu. C'est sûr que tu vas faire tshuva de la manière dont Hachem y veut. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas une forme pour faire tshuva. La tshuva, c'est chacun selon comment il doit revenir, chacun selon sa réparation, chacun selon ce que Akadosh Baruch Hu il veut de lui. Et même si Hachem, des fois, il te place, d'accord, dans un endroit où c'est obscur et c'est pas comme tu veux et ça te tue sous. Ok. Si c'est ce que toi, tu veux, Hachem, et c'est que dans cet endroit, tu veux que je te servirai à travers dans cet endroit-là. Ça veut dire, pour faire Avodat Hachem, il faut Bémet sortir de son carré. Il faut comprendre que l'Avodat Hachem, c'est pas carré du tout. Et on l'a vu la semaine dernière quand on a parlé du Mincha. Vous vous rappelez, on avait dit que Bémet, que quand un homme il commence à se rapprocher d'Hachem, alors il ressent comme ça, d'accord, comme si qu'on le boostait, on le coachait, il sent des petites ailes, et il est content et tout. Et bien évidemment, qu'Akadosh Baruch Hu, à un moment, il dit, bon, tu sais quoi, maintenant, je vais me retirer un petit peu, d'accord, je vais mettre comme ça un voile entre toi et moi, maintenant, je veux voir de quoi tu es capable. Et quand tu es dans ce moment, justement, où Akadosh Baruch Hu, d'accord, c'est un peu sombre, qu'est-ce que tu dois faire ? À ce moment-là, tu dois, au contraire, essayer de te renforcer. Tu dois essayer de dire, même que tu m'as mis dans un endroit très difficile à vivre, même si j'ai une situation qui me fait mal, même si tu as des souffrances, ça peut être avec... Tu sais, des fois, l'obscurité, il ne faut pas croire que c'est toujours au fin fond. Des fois, c'est quoi l'obscurité ? La plupart du temps, j'ai de la souffrance avec mon mari qui ne me comprend pas. J'ai une souffrance avec un enfant. J'ai une souffrance avec, je ne sais pas, de la famille, un ami, mon travail, avec moi-même. Je me sens galoute avec moi-même. Je sens que je suis comme dans une traversée du désert. C'est ça, en réalité, la souffrance, d'accord ? C'est ça, le mincha. Eh bien, dis-toi...
Et c'est aussi une souffrance de ne pas savoir parler, de faire une détruite.
Alors, je vais te dire...
C'est ça, c'est facile à dire.
Alors, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. La Hitbo des doutes, combien que les gens ils vont te dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il n'y a pas de règle dans la Hitbo des doutes. Et je vais te dire même plus que ça. Je crois que je vous l'avais dit la semaine dernière, mais ce n'est pas grave pour celles qui ne l'ont pas entendu. Même si tu dis tous les jours la même chose, d'accord ? D'abord, ce n'est jamais la même chose. Parce que même si tu prends les mêmes mots, l'intonation... le ton, tout ça, c'est différent. Mais même le ressenti, mais même si Bémet, tu vas dire, tu sais quoi, ça fait 20 ans que je dis la même chose, et ou ça fait... Hachem, lui, ce qu'il veut, c'est juste que tu te colles un petit peu à lui, tu essayes d'arriver, t'as pas parlé, t'as dit n'importe quoi, c'est pas grave, Akadosh Baruch Hu, il reprend tout ça, et lui, il va écrire tout l'histoire comme il faut. C'est tout, donc il faut pas... Il faut même pas vous dire, tu sais quoi, il y a un plan pour faire Itbo des doutes, je vais commencer comme ça. Et si tu n'arrives pas à suivre le plan, qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas Itbo des doutes? Alors quoi? Ça veut dire, il faut se dire, tu sais quoi? C'est quoi la Itbo des doutes? C'est de la spontanéité. C'est être spontané avec Akadosh Baruch Hu, c'est venir lui dire, je suis content, je suis pas content, j'ai de la peine, j'ai pas de la peine, j'ai de la difficulté ici. Dis ce que tu veux. C'est tellement merveilleux. Tu sais quoi? On est dans un monde. Merci. On est dans un monde où tellement on veut nous, tu vois, nous cadrer, nous dicter, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et que t'en as marre, que t'as envie de te déchirer les habits, tellement on veut te dicter ta conduite. On t'offre un cadeau. On t'offre un cadeau, on te dit, tu sais quoi, là, ce moment-là, tu sais quoi, c'est open. Tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, personne va te regarder. Et c'est certainement pas Akadosh Baruch Hu qui va dire, regarde-moi celle-là, là. Comment elle est venue habiller, comment elle est venue se parler, comment elle parle, ou comment... C'est certainement pas Hachem, parce qu'Hachem, quand tu viens chez lui, il s'en fiche qui tu es, comment tu es, qu'est-ce que... Il s'en fiche, tu es venu. C'est tout ce qu'il regarde, tu es venu. Et ça lui procure une joie, Kadosh Baruch Hu. Tu crées mamash une émotion chez Akadosh Baruch Hu. Quand tu viens chez Boré Olam et que tu parles avec Boré Olam, tu recrées en réalité une situation où maintenant il y a l'union qui se passe. Il y a en rapide, je voudrais vous dire quelque chose de très beau. Vous savez toutes, je pense, qu'est-ce que c'est que l'anida. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que l'anida ou pas? L'anida, donc tout le monde là-bas, je ne vous entends pas, les copines du fond. L'anida, tout le monde sait ou pas? Bon, d'accord. Alors nous, on associe l'anida, d'accord, au sang des règles. Mais l'anida, en réalité, c'est une séparation. Le mot nida, c'est séparation. Alors je veux que vous compreniez une chose. Rabbi Nathan, il explique quelque chose de très beau. C'est que l'anida, c'est pas juste donc la séparation par rapport au sang. L'anida, c'est aussi une séparation qui se crée, d'accord, du fait de mon éloignement avec Hachem. De la même manière, d'accord, que le but de notre venue sur Terre, c'est créer justement, recréer l'union entre Hachem et sa Shrina, et la présence divine qui repose sur le Ham Israël. Donc, quand moi, d'accord, je fais une mitzvah, qu'est-ce que je fais? Je crée en réalité une union entre Kadosh Baruch Hu, d'accord, et sa Shrina. Quand Chas V'Shalom, je fais une Avera, qu'est-ce que je fais? Je crée une Nida. Je crée une séparation entre moi et Boré Olam. Et Rabbi Nathan, il dit que Bémet, que tout le but dans ce monde, c'est quoi? C'est justement, c'est sortir de la situation de Nida. Faire en sorte justement que on crée une union totale avec Akadosh Baruch Hu. Comment on peut créer une union totale? Parce que tu vas me dire, oui, mais il y a des mitzvot, c'est dur. Bémet, c'est dur. Une femme, par exemple, qui s'habille, qui a pas l'habitude de s'habiller, d'accord? Tu vas venir maintenant lui dire, écoute, habille-toi de snout, machin, truc, couvre ceci. Ça se trouve, elle va dire, mais j'ai même pas d'habit. Voilà, tu sais quoi, même je veux, j'ai pas. J'ai que des petits machins. Et j'ai des... Alors, c'est difficile, elle va te trouver une excuse. Une autre, tu vas lui dire, essaye de faire Shabbat. Essaye. Elle va te dire, je peux pas. L'autre, cache-route, je peux pas. Bref, chacune, elle va te trouver une excuse, d'accord? Qui, je te promets, si bémé, tu prends un truc, c'est valable. C'est valable, c'est recevable. Elle a une difficulté, elle est pas bien, elle en peut plus, elle est tout ce que tu veux. Parler avec Hachem. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah de prier avec Hachem. Qu'est-ce que tu vas trouver comme excuse? Regarde, Hachem, il vient et te dit, regarde, tu peux venir me parler quand tu veux. Tu es dans ton lit, tu es en chemise de nuit, tu es en jogging, tu fais le ménage, tu fais ta vaisselle, tu fais du vélo, tu prends dans ta voiture, ce que tu as envie. Je ne peux pas faire mieux, je m'adapterai à toi. ce que tu veux. Tu sais quoi, Akadosh Baruch Hu, ça veut dire tellement, tellement il a faim, tellement il a soif, tellement il n'en peut plus, qu'Hachem, il est prêt, ça veut dire, tu sais quoi, être comme un 4x4. Il va s'adapter à toutes les situations. Tu veux lui dire, Rabbeinu, tu sais quoi, je vais aller maintenant à autre... Hachem, je vais aller maintenant, je vais le faire. Tu veux faire... Je m'adapte à tout. Qu'est-ce que tu vas lui trouver comme excuse? Il n'y a pas d'excuse. Quand tu vas chez Hachem, quand tu parles avec Akadosh Baruch Hu, tu sais ce que tu fais? Tu enlèves l'état de Nida et tu ramènes. Ça veut dire, c'est comme si tu faisais un mikvé. C'est comme si tu rapproches maintenant Akadosh Baruch Hu, justement, et de sa Shrina. Et c'est comme ça qu'on amène Mashiach. Donc chacun de nous, Bémet, on est maintenant la veille des 3 semaines. Venons, on essaye. D'accord? On vient ici tous les mercredis, on est content de se revoir. Et Bémet, ça nous renforce à nous toutes. Et chacune, enfin moi je parle pour moi en tout cas, mais chaque fois que je sors, je me dis, Hachem, je veux faire plus, aide-moi à me rapprocher de toi. Bémet, je veux faire tchouva, aide-moi. Maman, ça veut dire, on a envie, d'accord, de se rapprocher. Venons, on se dit, tu sais quoi? Viens, on prend une miftsa. On a 3 semaines devant nous. 3 semaines où on va essayer chacune de faire un effort. Un effort pour Hachem. Un effort pour Hachem qui nous donne tout. Hachem, il te donne tout. Il te donne la vie, à manger, à boire, une maison, des chaussures, des trucs. Tout, il te donne à Kadosh Baruch Hu. Tout, 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 tout. Tu peux, toi, tu vas lui dire, tu sais quoi, je vais te donner un petit truc. Pendant 3 semaines, je vais te donner un petit truc. Et tu sais quoi, je ne vais pas être une petite égoïste. Je vais partager. Ça veut dire, tu vas essayer de diffuser. Tu te dis, je vais partager mes copines, mes amis, la famille. Partage. Ne te pose pas de questions. Fais comme Rabbi Israël. Rabbi Israël, il ne se posait aucune question. Quand il voyait en face de lui une personne, il ne disait pas, attends, je vais lui dire ça ou pas, elle est religieuse, elle n'est pas religieuse. Non, 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 pas du tout. C'est une neshama juive. Pourquoi je vais lui empêcher? Pourquoi je ne vais pas lui dévoiler le trésor qu'Hachem nous a donné? Pourquoi? Donc, ne vous mettez pas des barrières, ne vous mettez pas comme ça des carcans vous disant non, là je ne peux pas. Et ne vous dites pas, là ce n'est pas l'endroit. Tu sais quoi, je vais vous donner des trucs, mais dingue. Tu me dis, tu sais quoi, j'ai voulu parler avec ma copine, mais on était au restaurant pas cachère. Ça la foutait mal quand même, on n'allait pas parler de Dieu en mangeant du pas cachère. Ce n'est pas vrai. C'est une fausse excuse. C'est le Yetzer Hara qui est en train de te raconter des bobards. Tu me dis, tu sais quoi, je suis en pleine Avera, en pleine plage ou en plein Chiloul Shabbat, je ne peux pas. C'est pas vrai, tout ça, c'est du Yetzer Hara. Quelle que soit ta situation, où que tu sois, mais parle avec Hachem. Parle avec ta copine, parle avec ton mari, parle d'Hachem, parle-leur et donne-leur, ça veut dire offre-leur ce cadeau. Offre ce cadeau, ne garde pas ça que pour toi. Vous savez, Rabbi Israël, quand il a reçu le pétek, il aurait pu le garder pour lui, en fin de compte. Qui c'est qui l'a obligé? C'était une lettre qui était adressée à nous? Non, pas du tout. Elle était adressée à lui, mon cher élève. C'est sur toi qu'on dira que tu n'as pas jeûné le 17 Tammuz. Il aurait pu dire, tu sais quoi? Ça va, moi j'ai un truc, j'ai le top du monde, d'accord? Moi j'ai le chant de la Géoula. Grâce à ça, je sais, j'ai tout compris, ok? Je ne vais même pas donner rien, qu'est-ce que je m'en fous de vous? En fin de compte, il ne nous connaissait même pas. Lui, il était là-bas dans son Tibériade, tranquille. Qu'est-ce qu'il s'en fiche? Pas du tout. Rabbi Israël, il a fait une annulation de lui-même, il a fait un Messirut Nefesh pour nous transmettre une lueur d'espoir. S'il n'y avait pas eu, d'accord, cette lueur d'espoir, qu'il n'y a pas le désespoir, il n'existe pas, et qu'il faut être Bessimcha, et qu'on peut parler avec Hachem à n'importe quel moment, et qu'on s'en fout que celui qui est religieux ou pas religieux, et que ce n'est pas grave si l'autre il étudie pas la yeshiva, etc., etc. Vous croyez qu'on aurait été comment aujourd'hui?
Il est où enterré?
À Jérusalem, à Ramenuchot.
À Givat Shaul.
C'est très facile d'accès. Tu vas, tu gardes ta voiture devant. On va y aller. On va y aller, ouais. Il faut vraiment demander à Elodie qu'elle nous organise l'affaire.
C'est facile.
Non, c'est pas facile du tout. Tu sais, ne crois pas, Rabbi. Tu sais, la dernière fois, j'étais chez Rabbi Israël. Et je te promets, je voulais y aller. Tous les jours, je veux y aller. Et tous les jours, une histoire. À un moment, je dis, mais Rabbi Israël, invite-moi, je ne comprends pas. Mais invite-moi, j'en peux plus, je veux venir. Quand j'ai eu, ça s'est ouvert. Et j'ai été 2 fois dans la même semaine, du coup. Donc ça veut dire, il faut vous dire, on a reçu, Baruch HaShem, un trésor. Parce que si on n'avait pas eu ces paroles, d'accord, tout ce message de Rabbeinu, mais même pas en rêve, d'accord, on aurait osé faire servir Hachem comme on en a envie. Même pas en rêve, ça veut dire chacune, elle serait venue comme elle est, chacune, elle... Parce que, c'est vrai, des fois, tu dis, ben, je veux un cours de Torah, attends, faut que je me fasse. Pas du tout. Nous, on a compris qu'en fait, on s'en fout. C'est pas la peine de mettre un déguisement. Viens comme tu es. On est tous des Juifs. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Et Akadosh Baruch Hu, il fait pas de distinction entre celle-là et celle-là, et pas comment, et celle-là, elle est... et celle-là elle vient de telle famille, etc. On s'en fout. On est tous des Juifs. Donc, essayons, Bémet, de distribuer cette Torah qu'on reçoit autour de nous, sans se poser trop de questions, on y va direct, Bezrat Hashem, et on essaie de se prendre en main pendant à la veille de ces 3 semaines, où chacun, peut-être, il essaie de se dire, tu sais quoi, je vais essayer de faire un petit effort pour Akadosh Baruch Hu, et peut-être que Bémet, grâce à mon petit effort à moi, d'accord, que je suis rien, et que je suis peut-être... même pas on me regarde, peut-être que c'est mon petit effort à moi qui va ramener ma chiar. Amen, Bezrat Hashem. Amen.
Comment tu peux essayer de transmettre ce cadeau à quelqu'un qui ne veut rien?
Tu sais qu'est-ce que tu fais? Alors, regarde, je vais te dire, quand quelqu'un ne veut rien entendre, tu prends un livre, tu le laisses dans sa bibliothèque, tu sais combien de fois... Non, je laisse. Tu sais combien de fois j'ai été chez des gens... aucun rapport, en discrétion, je mettais un livre. Des fois même, tellement j'ai dit, ils vont voir que c'est un livre qui n'est pas eux. Je prenais un Tikkun HaKlali, tu sais, les tout petits,
oui,
tout machin.
Bleus, là.
Je le mettais comme ça, derrière un livre, je dis, laisse, ça fera son travail. Voilà, c'est tout. Et je te promets que je l'ai vu de mes yeux, ça a fait le travail. Parce que Rabbeinu, il a dit, donne mon livre, donne un de mes livres, distribue un livre et ne dis rien, laisse-moi faire. À partir du moment où dans une maison, il y a un livre du tzaddik, c'est fini, tu as fait ton job.
Alors quand tu as deux personnes, par exemple, tu as des livres chez toi en double, et tu as deux personnes qui les veulent. Une qui est, elle veut bien, mais au-dessus de la jambe, et une qui dit, je le veux.
Tu donnes.
Alors, moi, je le donne à celle qui me dit au-dessus de la jambe.
Pas du tout, donne. Mais donne les deux, il va en racheter un.
Je donne les deux.
Donne.
Mais est-ce que je dois le donner à celui qui est au lieu, peut-être je le verrai, ou à celui qui je le veux absolument?
Si tu en as deux, bah donne-en à chacun, donne les deux. Parce que, écoute une chose, tu donnes les deux, je vais te dire une chose. Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, quand on vient le voir, et que Bémet, des fois on vient le voir un peu, bon allez, j'y vais parce qu'il faut y aller. Tu crois qu'il dit, attends, celle-là, je la sens pas. Il s'en fout. Hachem, il s'en fout. T'es venu, t'as fait un truc, t'as dit, bon, d'accord, allez, c'est tout. Après, Hachem, il va façonner comme lui, il veut, comme il faut, c'est tout. Et puis, tu sais, des fois, c'est des serrara.
J'ai vu